Kwai.
Ah, bonjour.
Alexis Wawanalwat.
Robert Blondin. Voilà, des beaux sujets aujourd'hui, Alexis, des sujets importants, des sujets plus légers, mais c'est intéressant, là.
Ben oui, on va avoir dans notre entrevue, notre longue entrevue, le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Wachiche, qui va venir nous parler de sa vision par rapport aux élections fédérales, ainsi que d'autres sujets.
C'est un homme que j'admire beaucoup.
Oui, un homme avec beaucoup de profondeur.
On va parler aussi de vêtements, de vêtements inspirés des valeurs des Premières Nations.
Oui. Avec deux invités qui ont parti une entreprise qui s'appelle Mini Tipi, une autochtone et une non-autochtone dans la région de l'Outaouais.
Et avec notre cher Loc Holmes de la généalogie des Premières Nations, avec Éric Pouliot-Tisdale. Et t'es avec nous, Éric, t'es là?
Ben oui, ça va
bien. Hey, et tu vas nous parler des... Il manquerait des représentants de Premières Nations dans les médias. Pourtant, ici, on en a déjà un important avec nous, là.
Bien sûr.
Alors, écoute, on t'écoute de cette lacune dans les médias.
Bien, parfait. Bien, on va revenir sur le cas de Mme Suzuki, qui était la coprésidente de la commission autochtone nommée par le Parti libéral, sans qu'ils aient fait aucune forme de vérification. Encore une fois, c'est la même lacune un peu qui s'est présentée comme... dans certaines universités qui ont engagé des gens qui se prétendaient autochtones et tout ça. Évidemment, bon, les journaux, les médias, tout ça, il y en a plusieurs qui m'ont appelé pour en savoir un peu plus sur elle. Et puis finalement, en regardant l'historique des journaux, ben, c'est une famille quand même qui était assez influente dans l'immobilier et commercial et résidentiel et tout ça, qui était vraiment, qui avait absolument aucune connexion avec les peuples autochtones. Ça semble être une chose assez nouvelle, l'auto-identification que madame avait faite de même en tant qu'autochtone et tout ça. Donc, ça nous ramène toujours au même problème, un peu comme les gens on avait vu il y a deux ans, des gens à l'Université du Québec à Montréal qui s'étaient auto-affirmés comme autochtones, qui avaient obtenu des subventions à l'Hôtel de Ville de Montréal, qui avait obtenu des postes en tant que représentant des Premières Nations qui n'avaient pas de sources autochtones. Et les communautés ne les connaissaient pas, finalement. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un dit qu'il provient d'une communauté, si personne de la communauté ne vous reconnaît, il y a quelque chose, en quelque sorte, qui ne va pas très bien là-dedans, ça. Donc, c'est pas mal... La grosse problématique, c'est que les organismes, présentement, pour faire la sélection des membres, c'est là qu'il y a une complexité. Et pourtant, on a le registraire des Autochtones au Canada. C'est comme un peu le registre d'État civil des Autochtones au fédéral. Pourquoi on l'utilise pas? C'est un grand mystère, parce que pourtant, bon, c'est les premiers habitants du Canada. Peu d'emplois sont offerts aux premiers habitants du Canada qui en profitent des gens qui s'auto-identifient. Ça fait que c'est là qu'est la grande lacune dans tout ça. Pourquoi pas vérifier? Si on peut vérifier les identités de tous les autres citoyens quand on a des questions, les gens sont obligés de présenter une preuve qui sont des immigrants, des résidents permanents, et ainsi de suite. Mais quand quelqu'un s'auto-affirme autochtone, ben, c'est bien correct. Vous avez juste à faire un X puis obtenir toutes les subventions pour autochtones. Fait que c'est une lacune, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'il devrait être remédié, et puis on n'arrive toujours pas à faire une espèce de compromis dans les organismes, tant les organismes universitaires, municipaux, entreprises, et ainsi de suite. Comme au pénitencier, toujours dans les pénitenciers du Canada, il y a toujours des 10 intervenants qui se prétendent autochtones, qui ont une carte, disons, de l'Alliance autochtone du Québec, avec un ancêtre en 1640, puis qui font des thérapies de guérison pour les vrais détenus autochtones dans les pénitenciers, tant les pénitenciers fédéraux qu'à des prisons provinciales. Donc, c'est encore une injustice. Pourtant, on est au Canada. C'est un peu comme le même problème de l'eau courante. On n'a pas d'eau courante, mais pourtant, on a plein d'argent à donner dans plein d'autres pays. Mais on ne s'occupe pas des ressources primaires ici. Les ressources primaires. Et puis, c'est ça. Donc, c'est en quelque sorte aussi une ressource primaire pour les Autochtones. Les emplois qui sont offerts, le peu d'emplois qui sont offerts, le peu de subventions. Et encore une fois, c'est des personnes d'à côté qui viennent prendre les subventions. Donc, c'est une grosse lacune, puis c'est une espèce d'impasse de l'inaction du gouvernement. Tant des pas juste du gouvernement fédéral, tant du provincial que du municipal, toutes les instances devraient faire une révision sur leur mode de sélection de gens qui s'identifient, auto-identifient, ou comment faire là, pour faire un juste milieu dans tout ça. Donc, c'est une grande problématique qui devrait être réglée, on l'espère tous, mais on voit, c'est un peu comme... Le barreau du Québec pourrait en fait faire une analyse plus un peu plus poussée sur qu'est-ce que l'usurpation d'identité, parce qu'il y a au Code criminel un article en lien avec l'usurpation d'identité, mais ça reste assez limité à qu'est-ce qui est touché par ça. Il faudrait peut-être développer une étude plus approfondie là-dessus, mais évidemment, puisque c'est un pourcentage très faible de la population canadienne, c'est pas un revenu nécessairement très assuré, surtout au Québec avec juste 2% d'Autochtones. Fait qu'est-ce que le barreau du Québec est très intéressé à pousser une étude là-dessus? C'est une bonne question. Peut-être qu'en Alberta, disons, ou en Saskatchewan, il y a plus d'Autochtones, les entités légales seraient plus portées à faire à investir du temps dans ça. Bref, c'est une question qui pourrait être lancée au barreau. Je pense que ce serait une bonne chose à faire, disons, une espèce de thèse révisionniste sur les articles concernant l'usurpation d'identité. Ça mériterait vraiment d'être fait. Mais on en est vraiment à ça au Canada. C'est un peu comme l'historique de nos anciens politiciens où tout le monde... Les gens, disons, qui ont fondé l'État de la Couronne, c'était des poètes de l'Écosse, des poètes de l'Irlande, des gens, c'était tous des cousins un peu, les aristocrates anglais, écossais, irlandais qui venaient au Canada, qui se donnaient des postes, un cousin, cousine, beau-frère et tout ça. Il y avait, par exemple, John Rawls qui était le attesté, le commissaire de la Couronne. Et puis, un très bon ami à lui qui était, comment il s'appelait? Donc, il s'appelait John Galt, qui a été attesté à la première compagnie des terres du Haut-Canada pour commencer à périmétrer les terres puis organiser le Canada, finalement, avant la Confédération, bien sûr, tout ça. Vers 1925 à 1927, c'était le début du périmétrage. Toujours avec des espèces d'amis, copains, beaux-frères, tout comme l'agent des Indiens de Kanawake, qui était de l'Orient, qui était le beau-père de Dominique Ducharme, qui était attesté à une autre mission, qui était Kanawake au cœur à l'époque. Donc, c'était tout... Des acolytes, un peu cousins-cousines, un cercle fermé, malgré qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça parce que ce soit un conflit d'intérêts, mais ça demeure toujours un peu des cercles fermés, les organismes tant gouvernementaux, provinciaux, municipaux, et ainsi de suite. Ça prendrait vraiment comme un bon swing là, pour finalement débloquer tout ça, là. Puis essayer de devenir un peu plus prompt côté administratif, puis faire les choses un peu plus scientifiquement pour que la justice soit rendue vraiment pour tous, puis demeurer éclaircie là, pour tout le monde. Là. Qu'est-ce qu'un Autochtone? Pourtant, on a le registre des Autochtones, la liste des Autochtones du Canada, et tout le monde se connaît éventuellement, étant donné que c'est une toute petite communauté. Donc, sur ce, je pense qu'il devrait y avoir un compromis peut-être et à faire avec une étude avec le barreau et puis les organismes gouvernementaux, municipaux, provinciaux, fédéraux, pour aller plus en profondeur, pour en finir vraiment avec ce dossier-là.
Tu as raison, Éric. Tu poses des bonnes questions. Ça, on sait que c'est vrai que c'est un article dans le Code criminel, l'usurpation d'identité, puis on le voit beaucoup. Sans que ces personnes-là subissent des conséquences légales, ils ont des conséquences sociales, des fois ils sont obligés de démissionner de leur poste. Mais tu poses des bonnes questions ici, puis ça a piqué ma curiosité.
Il faudrait savoir à qui ça profite de ne pas régler le problème.
Bien, c'est ça. En même temps, on voit qu'il y a comme l'intérêt présenté par M. Trudeau. Sauf que d'aller au fond des choses, là, ça devient un peu, ça semble un peu que tout le monde semble danser sur des œufs. Il faut aller un peu plus en profondeur.
Ben, merci, Thierry Léonie, pour ta chronique.
Ben, merci à vous, ça m'a fait plaisir.
Semaine prochaine.
C'était l'artiste Béatrice Dear et sa chanson « You're With Me ». Béatrice Dear est une artiste Inuk du Nunavik.
Si on dit mini-tipi, on s'imagine que c'est une petite tente pour enfants, mais c'est pas ça du tout, du tout, du tout. C'est complètement autre chose. C'est des vêtements. On a avec nous les deux copropriétaires hein, de cette nouvelle entreprise, enfin nouvelle depuis quelques années déjà, Trisha Pitoura et Mélanie Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Quoi à vous?
Hey, c'est pas des tentes là, que vous faites, vous autres, là.
Non, non, en fait, on fait des accessoires pour femmes, enfants, puis pour la maison. Donc, nos meilleurs vendeurs, c'est nos châles et nos couvertures, oui.
Ça, vous avez fait ça pourquoi? Ça vous a tenté, à un moment donné, comme ça, de faire de la couture pour les autres? C'est intéressant, la façon que ça a commencé. J'ai lu un truc intéressant sur vous, là-dessus.
Oui, bien, en fait, Trisha, qui est en ligne en ce moment aussi, faisait la couture comme loisir à la maison. Puis moi, dans le fond, je voyais ce qu'elle faisait. Donc, j'ai dit, oh, peut-être qu'on pourrait, tu sais, de développer d'autres produits. Donc, on était maman à la maison. Puis, bon an, mal an, dans le fond, notre offre a augmenté aussi. Donc, puis là, on se cherchait un nom. Au début, notre compagnie s'appelait TP Creations. Donc, Trisha, ses initiales sont T et P, donc TP. Et Trish, est-ce que tu veux te présenter aussi, dire d'où tu viens?
Oh oui, c'est le T à Trisha et le P à Pitoura. Pitoura, c'est une spin pour mon culture Ojibwe. C'est juste utiliser le nom avec mon nom, avec une petite spin avec la culture.
Madame Pitoura?
Oui, allez-y, donc.
Oui, est-ce que c'est vous qui faites tous les designs dans la compagnie? On voit que quand on regarde votre site, c'est des designs autochtones. C'est vous la designer?
Non, mais peut-être Mélanie a aidé moi un petit peu aussi, mais c'est expliqué. J'ai commencé avec le tissu général.
OK.
J'ai acheté le tissu général, n'a pas de histoire avec le design. Mm-hmm. Nous commençons avec une collaboration avec les artistes autochtones pour faire utiliser une célébration de culture pour profiter pour les artistes aussi.
Okay.
Mais c'est vraiment important pour nous, pour la célébration de culture aussi et une journée pour moi aussi, sur une reconnexion pour mon culture et aussi Mélanie, pas autochtone. Et le client de MiniTP est autochtone et pas autochtone aussi. C'est un pont pour les deux cultures, pour expérience. Une petite culture d'autochtones.
C'est intéressant parce que c'est pas un ghetto, là, c'est pas renfermé uniquement dans le monde autochtone, c'est ouvert au monde non-autochtone aussi, c'est drôlement intéressant.
Oui, bien, tout à fait, en fait. Puis, donc, dans le fond, comme Trisha expliquait, au début, on était une petite compagnie, on achetait des tissus généraux, puis à un moment donné, on s'est dit, mais voyons, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de culture avec ça, donc on s'est dit, comment on pourrait changer ça? Donc, a commencé la collaboration avec les artistes autochtones. Puis, comme Trish disait aussi, elle-même, en tant qu'autochtone, elle a beaucoup reconnecté avec sa culture Ojibwe à travers ça. Puis, nos clients, je crois qu'on leur partage un morceau de culture. Donc, ils sont vraiment reconnaissants. Donc, souvent, on reçoit des courriels qui disent « Oh, merci de m'avoir soit appris quelque chose sur ma culture ou de m'avoir permis de me sentir plus à l'aise ou d'en connaître plus. » Donc, tu sais, j'ai vraiment l'impression que plus on connaît quelque chose, moins on en a peur.
C'est aussi une façon pour les Blancs, les non-autochtones, d'encourager tous les mouvements, toutes les initiatives et les mouvements d'affaires autochtones.
Tout à fait. Puis souvent, ce qu'on entend, nous, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de Blancs qui veulent encourager, mais ils savent comme pas trop quoi faire, donc où se diriger. Puis, ils aimeraient encourager des entreprises autochtones, mais ils sont pas trop certains. Donc, définitivement, donc ça offre l'opportunité de célébrer les artistes et la culture et en même temps d'encourager les entreprises autochtones. Oui.
C'est quoi, mesdames, vos gros vendeurs dans vos produits?
En fait, notre meilleur vendeur, c'est nos grandes couvertures. Donc, on a une couverture grandeur très grand lit, donc queen size, fait en mélange de laine et d'acrylique, donc super résistant et chaud en même temps. Puis là, c'est tout nouveau, là, mais pour la collection d'automne qui se prépare pour le lancement, on a acheté un tissu, en fait, éco-responsable, donc fait de laine recyclée et de plastique recyclé aussi. Ouais.
Ça, c'est drôlement intéressant.
Vous produisez ça? Ouais, c'est où que la production est faite? Est faite localement ou...
Oui, donc dans le fond, on achète nos tissus en Italie, okay. Mais on a notre atelier à Elmer, à Gatineau.
Ah oui?
Oui, c'est ça. Dans le fond, on a notre atelier ici, puis on a 13, on emploie 13 employés qui font le design, la coupe,
ah,
la
couture
de nos produits, oui. Oui. Mm-hmm.
C'est un changement pour Mélanie et moi. J'ai du travail dans le sous-sol. À février, j'ai loué un espace dans le Elmer, Mélanie dit, pour grandir la compagnie avec les employés, avec le manufacturer, tous les produits à coupe et couture dans la même place.
C'est intéressant, ouais. que des tissus pour faire des choses autochtones viennent d'Italie, hein?
Oui, ben en fait, c'est que c'est très... En fait, c'est que c'est... Nous, on était vraiment nouvelles dans le monde du tissu, mais c'est que au Canada, en fait, il n'y a pas de moulin ou de métier à tisser qui ferait une assez grande production pour ce qu'on voudrait faire. Donc, si on le dit en nombre, mais si quelqu'un a un contact, ça serait vraiment bien.
Qu'est-ce que vous faisiez toutes les deux avant de vous lancer dans cette affaire vraiment intéressante, là?
Ben, on était en congé maternité, en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, moi, j'étais enseignante.
Vous étiez enceinte professionnelle, c'est ça que vous me dites?
Oui, c'est ça. mais disons que j'étais enseignante et Trisha était récréothérapeute. Puis, on s'est vraiment, tu sais, comme je disais, Trisha avait commencé à coudre. Puis moi, on était les deux à la maison, donc là, je pourrais t'aider. Puis là, ben, on n'avait vraiment pas, en fait, entrevu que ça prendrait de l'ampleur autant. Donc, mais là, maintenant, on est bien contente. Donc, on a 13 employés, notre atelier. On vend dans 40 boutiques. On va chez Simons aussi et en ligne. Donc, oui, on est bien contente du succès, succès de l'entreprise jusqu'à présent.
Si on veut, oui. Si nos auditeurs veulent trouver vos produits, il y a Simons, il y a en ligne, on tape Mini-Google sur Internet et on va vous trouver.
Oui, ben, ou minitipi.ca, puis on est là, oui.
Alors, on répète le nom, il faut donner l'adresse, on va répéter l'adresse pour être certain.
Parfait, donc www.minitipi.ca.
Super!
Est-ce que vous avez d'autres projets de développement à partir de ces produits-là?
Ben en fait, oui, mais là, on est dans le secret des dieux un peu.
Oui, mais des dieux sont ici, justement. Ils sont d'accord.
Ils sont tous, oui. Donc, on nommera pas de nom, mais on s'est fait approcher pour désigner les tissus d'un spa qui est en train d'ouvrir. Donc, ils voulaient vraiment faire un changement à travers des artistes autochtones. Donc, Trish, avec notre équipe, est en train de travailler à l'élaboration de tissus. Puis, encore une fois, pour le même but, célébrer la culture, puis célébrer, dans le fond, les terres où le spa va ouvrir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais pensé qu'il allait arriver, de se faire demander de désigner pour
formidable.
D'autres personnes. Mais oui.
Est-ce que vous sentez, oui. comme nous, l'intérêt que porte l'ensemble de la population pour tout ce qui est autochtone depuis quelque temps?
Définitivement. Je ne sais pas si Trish, tu veux en parler un peu plus, mais ça a vraiment... Pardon?
Oh, non, excuse-moi, je ne vais pas comprendre la question.
Oui, c'est ça, le mouvement. Dans le fond, on se rend compte que les gens ont de plus en plus d'intérêt, puis même les gens autour de nous, donc qui posaient pas nécessairement de questions, mais maintenant, on dirait que la discussion est comme ouverte, puis on trouve ça, pour nous, ça n'a que du positif, en fait, donc de pouvoir répondre aux questions. Je sais que Trisha, par exemple, se fait souvent approcher pour des entrevues, pour aider avec les médias sociaux, ou simplement pour répondre à certaines questions, parce que dans notre coin, il y a des gens qui sont pas familiers avec les personnes autochtones, ou on n'en connaît pas personnellement, donc là,
C'est un beau trait d'union. Mélanie Bernard, Trisha Pitoura, merci infiniment et bravo. Hein?
Kitty Miigwetch.
Oh, merci Miigwetch.
Merci Miigwetch.
Qui
C'était Jisulk Getabekyurk de l'artiste Mi'kmaq de la communauté de Metapanagiag au Nouveau-Brunswick. Il s'appelle George Paul.
Préparez-vous un bon café pour la prochaine demi-heure parce qu'on sera avec nous le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashishi.
Écoutez, Kwe, bonjour.
Alexis Wawandalowat ici avec Robert Blondin et un invité qu'on apprécie particulièrement, très heureux de recevoir le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashishi. Bonjour.
Kwe, grand bonjour. Chef Awashishi.
Un plaisir d'être avec vous.
Merci, Mikwetch. En commençant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses des élections fédérales en ce moment? Est-ce que tu trouves que les questions autochtones prennent assez de place?
C'est sûr qu'il y a quelques mentions de questions autochtones, mais je trouve là, que, en tout cas pour moi, peut-être pour d'autres c'est différent, mais pour moi, là, le grand chef de la nation Atikamekw, je pense que la question autochtone devrait être plus abordée. Je pense que les partis devraient prendre conscience là, de l'importance de vraiment travailler avec les Premières Nations ici au Canada.
C'est comme s'ils en parlaient uniquement quand c'est électoralement rentable.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on connaît un peu la situation avec les Autochtones. Souvent, il y a eu des mouvements où il y avait en quelque sorte un boycott là, de la part des Autochtones des élections. Et souvent, c'est difficile de faire sortir le vote autochtone. Peut-être c'est la raison pourquoi. C'est peut-être également le fait que la dernière année, ça a été une année qui était très difficile, très explosive, très polarisante sur la question autochtone. Si on parlait de maltraitance, de découverte de dépouilles de jeunes enfants dans les pensionnats. J'ai peut-être un peu mal à l'aise, là. Ils sont peut-être un peu mal à l'aise d'aborder la question ou ont peur que ça dérape vers ces discussions-là qui sont pas toujours productive pour eux. Je sais pas. Il y a plusieurs aspects, mais je trouve qu'on parle pas assez des Premières Nations là, dans cette élection-ci.
Si on parle des Atikamekw Narrawisiaq, ouais. C'est quoi vos priorités à vous dans ces élections-là? Qu'est-ce que toi, tu aimerais voir de la part des candidats qui se présentent dans les différentes circonscriptions où il y a des Atikamekw?
Ouais, je pense que c'est important de venir à notre rencontre. Je pense que c'est important de venir donner une certaine visibilité là, ou une certaine se démontrer leur intérêt sur nos besoins, ce que nous désirons, ce que nous voulons également pour l'avenir. De prendre le pouls également, puis de venir nous connaître en tant que peuple. Je pense souvent c'est comme ça. Les gens, les élus non autochtones, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau provincial ou municipal. Souvent, les élus ne connaissent pas les Premières Nations, ne connaissent pas les 11 nations, les différentes communautés, ne connaissent pas l'histoire vraiment. Ce qu'ils ont entendu, c'est souvent des blocus des Autochtones, c'est la crise d'Oka, c'est des petits brins d'informations sur la vérité et réconciliation. Donc, tu sais, ils n'ont pas vraiment une réelle connaissance approfondie des Premières Nations. Donc, tu sais, j'anticipe toujours des réponses ou des réactions là, quand même assez...
alambiquées. En fait, ouais, ils s'en occupent uniquement quand ça dérange de voir les Autochtones prendre leurs droits.
Ben, tu sais, ça, c'est une autre question, mais... Je pense que c'est le manque d'éducation, le manque de sensibilisation, comme je disais tantôt. Ils ne connaissent pas les Premières Nations. Ils les connaissent juste à travers ce qu'ils ont vu à TV, des blocus, la crise d'Oka. Et là, quand on parle de droits ancestrales, on parle de titres ancestrales, la première réaction, puis peut-être je ferais la même chose également si je serais à leur place, la première réaction, mais c'est d'essayer d'éluder la question, essayer de passer à côté. On voit les Premières Nations comme des empêcheurs de tourner en rond. C'est des gens qui ils voient les Premières Nations comme une certaine problématique qu'il faut contourner ou qu'il faut passer outre, essayer de faire oublier le dossier, au lieu de voir les Premières Nations d'une façon positive, de voir les Premières Nations comme un gage d'avenir, que ça soit un gage d'avenir au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau même de la défense des territoires, de la défense des frontières. C'est cette vision-là que les élus non autochtones devraient voir les autochtones actuellement. Puis on n'est pas rendu là. Manque beaucoup d'éducation, manque beaucoup de sensibilisation. Puis c'est ce que je déplore là, un peu. Là. Puis je pense que c'est un peu à l'image de cette réalité-là que les élections avancent présentement. C'est très peu de questions autochtones. Pourquoi peut-être le malaise, le méconnu, la non-compréhension, ils veulent pas trop s'embarquer, on marche des œufs, surtout avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, les dernières années. Donc, je pense que c'est un peu tout ça ensemble là, qui fait que la question n'est pas trop abordée.
Constant, tu disais un peu plus tôt, t'espérais qu'ils viennent à votre rencontre. Est-ce qu'ils sont venus dans les dernières élections, à votre rencontre? Les candidats, les partis?
Ben, ils ont... Là, deux élections, on avait organisé un débat, tu sais, c'était pas pire. Dernière élection, oui, il y a des gens qui venaient nous rencontrer, voulaient nous voir. Cette élection aussi, on a un candidat qui était proactif à ce niveau-là. Il y a un autre candidat qui a essayé de me rejoindre cette semaine. Là, j'ai pas réussi encore, j'ai pas eu le temps de faire un retour, mais tu sais, c'est très peu, là. Tu sais.
C'est très peu, c'est peu comparé aux autres fois.
C'est ça.
Puis cette défense-là des intérêts des Atikamekw ou des Autochtones en général, on sait que ça passe entre autres aussi par le fait qu'il y ait des candidats autochtones. Dans cette élection-là, à travers le Canada, il n'y a jamais eu autant de candidats autochtones dans les partis des différents partis politiques. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de s'investir en politique comme ça? Ou, comme beaucoup d'autres, beaucoup de membres des Premières Nations disent « c'est pas notre gouvernement, c'est pas notre nation, on devrait pas s'impliquer là-dedans ». C'est quoi que tu penses par rapport à cette implication-là des différentes personnes autochtones dans des partis politiques?
Moi, je pense qu'il y a souvent des débats quand même assez intenses entre le leader autochtone sur cette question-là. moi, je suis d'avis là, que oui, il faut continuer à travailler pour notre autodétermination, mais je suis d'avis également qu'il faut contribuer à rendre possible cette autodétermination-là en participant au changement, en donnant l'opportunité de pouvoir être ce changement-là. Puis je pense que c'est important que les Premières Nations puissent s'impliquer soit par le vote, soit par en se présentant candidat pour les différents partis, mais d'avoir une représentation autochtone pour mieux défendre, mieux instruire, mieux éduquer, mieux sensibiliser, mieux se faire connaître, mais mieux instruire là, sur la question des droits. Et je pense que le changement peut se faire, mais on a besoin d'une meilleure participation et une meilleure compréhension. Pour avoir une meilleure compréhension des enjeux, je pense rien de mieux d'avoir des Autochtones.
Mais d'avoir des Autochtones en politique, là, j'en ai un devant moi qui s'appelle Alexis Wawanodwat. Il a été député, là, ce gars-là. Là. Alexis, est-ce que tu as pu vraiment faire entendre ta voix quand tu étais dans le parti politique et au pouvoir?
Je pense que la politique de la chaise vide, on l'a tenté à plusieurs reprises. Et malheureusement, j'ai pas été dans un parti qui était au gouvernement. Donc, on a tout le temps l'écoute en politique, dans notre système britannique, comment ça fonctionne, du chef. Et plus qu'il va y avoir d'Autochtones, je pense que plus qu'il va y avoir cette écoute-là de la part du chef. On l'a vu avec Roméo Saganache, même s'il était pas dans un parti au pouvoir, il a pu amener beaucoup d'enjeux qui touchaient les Premières Nations du Québec puis du Canada. Donc, moi, j'espère que il va avoir cette écoute-là. Puis on a vu aussi le contre-exemple avec madame, la dame qui était ministre des Affaires de la Justice à
Vancouver.
Qui avait trouvé qu'il n'y avait pas l'écoute du chef finalement, puis qui a décidé de démissionner. Donc, c'est un couteau à double tranchant.
Lui, Constant à Wauchiche, il se présenterait-tu un jour?
Ah, j'ai pas encore envisagé ça. J'ai eu quelques approches, je dois l'avouer, mais ça n'a pas été, premièrement, je pense que moi, ce qui me passionne, c'est vraiment de pouvoir développer la gouvernance de la nation atikamekw, c'est de travailler sur l'autodétermination. Oui, c'est difficile de travailler là, pour les Premières Nations. On a toujours l'impression de quêter auprès des gouvernements, toujours en position d'expliquer, de défendre nos droits.
Constant.
C'est pas toujours facile, cette position-là.
On va prendre une petite pause. On revient justement avec ces sujets-là qui vont être plus relatifs à la nation atikamekw après notre petite pause musicale.
Thank you.
C'était mon petit frère, Divan Boivin Flamand, un artiste atikamekw.
Néro avec Mizo. Nous aujourd'hui, Constant Awashish, le grand chef du Conseil de la Nation atikamekw. Moi, je voulais entendre parler de la déclaration d'indépendance.
Oui, on célèbre l'anniversaire de cette déclaration-là.
En effet. La déclaration de l'indépendance, je pense que l'indépendance, ça sonne un peu peut-être mal dans les oreilles de certains.
Ça dépend pour qui.
Au Québec. Oui, c'est ça. Ça dépend pour qui. Mais pour nous, là, c'est vraiment la déclaration de souveraineté. C'est de venir rappeler qu'on est toujours souverain sur nos territoires. C'est de venir rappeler les messages que nos ancêtres nous ont laissés. En particulier, là, M. Feu César Néwashish, qui, sur son lit de mort, avait expliqué un peu comment que la colonisation s'était déroulée. Et qu'au bout de la ligne, notre territoire, les Atikamekw, on n'avait jamais vendu, échangé, statué autrement sur notre territoire. Donc, c'est pour nous, là, c'était vraiment de venir rappeler cette situation-là. C'était un message qui était politique. Hein? C'était un message qui était à trois volets, je veux dire. C'est un message politique, un message d'éducation, un message également social. T'sais. Je dis politique, mais c'est de rappeler la situation des droits ancestraux, du titre ancestral. C'est de rappeler au gouvernement d'arrêter de toujours essayer de gagner du temps, d'éluder la question des Atikamekw, d'arrêter de mettre ça sous le tapis, puis de léguer ça aux générations futures. Je pense qu'on est encore dans une situation de zone grise en ce qui a trait là, les droits sur le territoire. Et pour nous, je pense que c'est important pour nos générations futures en tant qu'Atikamekw, mais également pour les générations futures en tant que Québécois et Canadiens, de régler cette question-là, de clarifier nos rôles là-dedans, comment qu'on peut harmoniser nos besoins ensemble pour mieux développer une meilleure société sans conflit pour le futur. Je pense que c'était ça le message politique. Mais également le message éducatif, mais c'était un message éducatif à la classe des élus, également à la population en général, de faire connaître les Atikamekw, les enjeux, de rendre ça public, ces enjeux territoriaux-là et des droits, et d'informer la population générale que on est tanné de se faire niaiser, on est tanné que les gouvernements tentent seulement de gagner du temps tout le temps, au lieu de vraiment s'asseoir sérieusement puis de régler la question là, des droits avec les Atikamekw de façon, là, avec une bonne foi.
Ça fait 7 ans que vous avez fait cette déclaration de souveraineté. Est-ce que ça a donné quelque chose?
Ben, ça, pour moi, je vois des résultats sur le terrain. C'est sûr que pour tout ce qui est développement, je pense que c'est rendu plus systématique. Les gens s'informent de notre réalité. On est plus approché quand il y a des développements. Mais moi, je le vois également du côté social. Le côté social, c'était le troisième volet. C'est de redonner une fierté aux Atikamekw, de rappeler leur origine, leur identité, de rappeler qu'ils peuvent faire la différence, de leur rappeler que c'est un peuple particulier, c'est un peuple fort. Et je le vois aujourd'hui. On voit des Atikamekw s'impliquer un peu partout. On entend parler des Atikamekw partout. On prend une grande place médiatique. On prend une grande place au niveau politique également. Même dans notre région ou ailleurs, on voit de plus en plus d'Atikamekw qui travaillent dans différents milieux. Puis je pense que c'est ça la victoire là, de les avancements là, de la déclaration de souveraineté. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la gouverne. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'éducation, de la sensibilisation. Mais tranquillement, sûrement, là, on travaille là-dessus. Puis je pense qu'à long terme, on va avoir des résultats positifs. Puis je pense que on veut toute la même chose. On veut avoir on veut bien vivre. On veut être confortable. On veut pouvoir élever nos familles. On veut pouvoir avoir un bon système d'éducation, de santé, avoir assez de maisons. Mais pour ça, je pense qu'il faut nous donner une opportunité. Il faut s'asseoir avec nous et de pouvoir partager là, la question du développement des ressources naturelles de notre territoire, puis nous donner l'opportunité de se développer au niveau socio-économique. On est comme 50, 60, 70 ans en arrière en termes de sociodéveloppement. Et c'est ce rattrapage-là qu'il faut faire, mais pour avoir ce rattrapage-là, il faut avoir une pleine collaboration puis une pleine bonne foi des deux paliers de gouvernement. Et également, il faut avoir une pleine collaboration et la bonne foi de la population en général, puis pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt de voir les Autochtones comme une plus-value à la société, mais également de pouvoir voir cet investissement-là comme un investissement à long terme pour la sécurité de tous, la sécurité économique, la sécurité culturelle, mais la sécurité également de nos frontières.
Pour qu'on ait tous droit à notre dignité, dans le fond.
Ben oui, je pense qu'on peut tous bénéficier de ça. C'est un grand pays, le Canada, des grandes ressources. Je pense que si on arrête de chicaner, si on peut travailler ensemble dans la même direction, on va pouvoir bien s'installer et bien défendre nos intérêts communs. Et on regarde un peu plus loin que nos frontières, on regarde un peu la géopolitique, le monde pousse et il faut, je pense, des fois, là, je pense qu'il faut prendre le temps de s'arrêter et de regarder et de constater là, que c'est important de redevenir des alliés, c'est important de redevenir des collaborateurs, puis c'est important de redevenir des partenaires pour l'avenir.
Pour la fin de notre entrevue, j'aimerais qu'on aborde un autre triste anniversaire. Ça va bientôt faire un an que notre sœur Joyce Echaquan est décédée dans des circonstances plus que dramatiques. Personne ne devrait avoir vécu ça quand on est à son plus vulnérable. Est-ce que tu penses que la position du gouvernement du Québec est susceptible de changer relativement au racisme systémique? Est-ce que tu vois des progressions, à tout le moins, dans la société par rapport à cette question-là?
Moi, je pense, déjà, leur position était claire à ce niveau-là. Avant même que ce parti-là soit au pouvoir, ils avaient déjà défini, avaient déjà mentionné, pris position que pour eux, ils ne croyaient pas au racisme systémique. Pour nous, on le croit. Pour la famille de Joyce Echaquan, il le croit. Pour la communauté de Manawan, il croit également qu'il existe un racisme systémique. On a des appuis là, de la Fédération des infirmières du Québec, on a des appuis du Collège des médecins et autres également.
Qui accepte le principe de Joyce.
Qui accepte le principe de Joyce. Il y a eu une commission là, qui est venue illustrer là, comment que le racisme envers les Autochtones est un racisme systémique. Je vais vous donner un exemple. On est ici au Canada, un état de droit où ce qu'il y a plusieurs sortes de droits qui s'appliquent, que ce soit le droit des biens, le droit civil, le droit criminel, le droit des affaires. Mais si on s'attarde sur le droit criminel, par exemple, quelqu'un arrive chez vous, s'installe chez vous, décide d'exploiter ta maison, de faire comme si c'était chez eux. Dans le fond, c'est...
On va pouvoir appeler la police pour le sortir de là.
On va appeler la police, on va le sortir de là. Mais étant donné que c'est pas nous qui font ça, mais politiquement parlant, on appelle ça de l'usurpation au lieu d'appeler ça de la recelle. Le racisme systémique commence à la base de la colonisation, puis c'est ça, dans le fond. Puis il faut comprendre que le racisme systémique peut seulement exister envers les Premières Nations ici au Canada. Je sais qu'il y a d'autres formes de racisme, mais quand on parle de racisme systémique, c'est un racisme qui s'exerce envers un peuple qui était les premiers habitants d'un territoire auquel un système a été mis en place pour éluder leur pouvoir, mais également usurper leur capacité. C'est moi qui vois ça, le racisme systémique.
Mais c'est exactement, Constance, ce qui s'est passé avec toutes les nations colonisatrices, en fait. Quand on regarde ce qui s'est passé en Afrique, au Congo, en Éthiopie, en Tunisie, en Algérie, etc., c'est toujours la même chose partout. Exactement ce qui se passe avec les Autochtones ici, ça s'est passé là-bas, mais ils ont tous eu maintenant leur indépendance, tandis que vous êtes encore pris avec le même problème. Je vous écoutais tout à l'heure parler de 50 ou 60 ans en arrière. Je vous ferais remarquer que pas d'eau courante, là, c'est pas 50-60 ans, c'est 100 ans en arrière.
Ben, c'est vrai qu'il y a des communautés là, qui sont très en retard à ce niveau-là. Nous, les Atikamekw, on est quand même chanceux, on a quand même des bons systèmes d'aqueduc. On a de l'eau potable dans nos communautés, on a des gens qui ont été formés également pour maintenir cette eau-là. On est quand même à jour à ce niveau-là, mais il manque beaucoup de maisons. On a des problèmes également au au niveau de l'éducation, de la santé, où ça, on est chroniquement sous-payé, sous-financé. Et je pense que vous avez raison là, quand vous avez parlé de d'autres pays, d'autres, comme en Afrique, qui ont déterminé leur indépendance. Hein. Mais pour eux, eux étaient supérieurs en nombre, alors que nous, nous sommes inférieurs en nombre. C'est un peu ça la différence. Mais en même temps, il faut, je pense, faire vivre la philosophie et l'approche de nos ancêtres. Nos ancêtres auraient pu tenter de les repousser, mais c'était pas ça leur philosophie. Pour eux, c'était d'accueillir ces nouveaux arrivants-là, de les aider, de prendre soin d'eux, de pouvoir travailler sur des intérêts communs. Puis c'est pour ça aujourd'hui il y a des Européens en Amérique du Nord, c'est parce que les Autochtones les ont accueillis, les ont aidés, les ont montré comment vivre ici dans ce climat-ci. Et c'est sous cette philosophie-là que je pense qu'on continue à vouloir évoluer. Et tu sais, c'est pas quand on parle d'autodétermination, quand on parle de restaurer nos ordres juridiques, c'est pas parce qu'on veut renvoyer tout le monde en Europe. C'est parce qu'on veut être respecté selon nos valeurs. On veut que les choses se développent selon nos approches. Mais également, je pense, faut que ça soit fait d'une façon harmonieuse en utilisant des outils qui sont contemporains et de pouvoir exercer cette forme-là. Mais je pense qu'il faut des élus non autochtones, fédérales, provinciales, municipales, qui comprennent c'est quoi
notre philosophie.
La philosophie, mais également la base qui est le pluralisme juridique.
Ouais.
S'ils acceptent ce pluralisme juridique-là, on va pouvoir créer là, une société beaucoup plus forte où ce que tout le monde va pouvoir contribuer aux intérêts communs.
Tu parlais de philosophie, puis ça me parle beaucoup. En ce moment, on est dans l'ère anthropocène, l'ère de l'humain, la sixième extinction de masse, les changements climatiques arrivent, les peuples autochtones sont les premiers touchés par ça.
Ouais.
Est-ce que tu penses que la philosophie Atikamekw-Narrawuzzuk ou la philosophie des autres Premières Nations pourrait être un des remèdes à l'exploitation du territoire, comment on l'a fait, à une philosophie qu'on devrait peut-être s'inspirer pour implanter ces philosophies-là des Premières Nations dans
on
les constitutions.
On est aussi bien de le faire parce
dans
qu'on
les constitutions canadiennes puis québécoises, mettons.
Ben oui.
Ben, je pense que ça fait partie intrinsèque de nos façons de voir les choses. Le développement durable, la protection de l'environnement, protection des cours d'eau, protection de la forêt, des animaux, de la faune. Je pense que ça fait partie de notre identité. On a toujours parlé de cette façon-là. Puis de nos jours, je pense même les gouvernements, les différents ministères, des groupes de pression empruntent en quelque sorte ce genre de philosophie-là. Ils ont compris finalement que qu'il faut penser à l'avenir. Puis pour penser à l'avenir, je pense qu'il faut réaliser l'impact qu'on fait aujourd'hui à notre environnement. Et je vais te donner un exemple. L'autre fois, j'ai constaté, puis ça m'a fait réfléchir. En 1916, on m'a montré une voiture qui était existante dans une exposition de voitures antiques. En 1916, il existait déjà des voitures électriques, mais ça n'a pas été le cas, parce que il y a souvent des lobbying qui font en sorte que certaines technologies ne peuvent pas se développer.
Ouais.
Et je pense que c'est un peu comme ça, mais tranquillement, les gens, puis même ces gens-là qui font du lobbying, qui ont fait des lobbying peut-être néfastes à l'environnement, tranquillement, ils réalisent l'importance de protéger notre berceau commun qui est la Terre. Et pour nous, je pense, on a toujours eu cette approche-là, cette philosophie-là. Maintenant, les gouvernements, avec un langage plus scientifique propre à eux, commencent à constater là, tout ce que les Autochtones disaient là, pendant des... Ben, qu'ils n'ont jamais arrêté de dire, en réalité. Et je pense qu'il y a quand même un côté positif à tout ça, mais il y a tout également... Là, tout ce qui vient avec la philosophie autochtone, de l'importance de respecter les choses.
Mais le temps presse un peu, par exemple.
Les animaux, les roches, et pour nous, je pense que c'est...
Pendant longtemps, on vous a demandé... pendant longtemps, Constant, on vous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, mais là, c'est à vous à nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous dans l'urgence climatique. Hein?
Ben, je pense que c'est de nous redonner notre place et de faire confiance à nos systèmes juridiques et de pouvoir là, je demande aux politiciens non autochtones de respecter les cultures autochtones, puis de comprendre que ces cultures autochtones-là, ces approches-là et nos intérêts communs vont être bénéfiques pour leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est ce que je demande.
Sur ces sages paroles, on dit Kichimigwetch. Merci beaucoup.
Megwetch.
Merci, Constant. L'émission s'achève. Intéressant, Constant. Vraiment intéressant,
ben oui.
Alexis.
Un homme avec beaucoup de profondeur, des sages paroles. C'était un invité assez impressionnant.
L'équipe de l'émission, Louis Garon, Jean-Sébastien Laliberté, Claire Guérin, Alexis Wawanadoat. À la semaine prochaine, Alexis, Robert Blondin ici. À bientôt.